portez-vous bien? L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, l'émission sportive de Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Timothée Rouvière vous donnera les résultats du week-end. Lucas Sertic, l'agenda de la semaine, sans oublier bien évidemment les débats avec ce soir le Stade Toulousain et le Toulouse Football Club. Enfin, nous recevrons l'entraîneur du Phoenix Toulouse Handball, Philippe Gardan. Avec nous aujourd'hui, Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Marek Keta, bonsoir Marek.
Bonsoir à tous.
Et Lucas Sertic, bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Messieurs, ravis de vous retrouver. Bienvenue, avant tout, hein, à l'absent de la semaine dernière.
Le
retour de Lucas. Ça va, Lucas?
Je te vois
tout sourire.
Oui, oui. Mon bon nom de famille te plaît ou pas?
Et ça va. Je suis plutôt content. Je l'ai bien prononcé, là.
Oui. Sur le deuxième coup, oui. C'est parfait.
T'étais pas là la semaine dernière?
Non. Non.
Vous avez acheté une maison, c'est bien ça?
C'est vrai.
Ouais.
Ah.
Alors,
c'est vrai. Ça m'arrive une fois par mois. En même temps, c'est pas non plus.
On veut des détails.
C'est la radio, c'est
là, c'est pas de bol. C'est tombé sur la première émission, mais. Voilà. Mais du coup, oui, je suis propriétaire.
Ah, ça c'est beau.
Mazal tov.
On n'a pas les mêmes moyens en même temps de cette table.
Non, bah, il a réclamé beaucoup plus.
Ah oui, d'accord. Oui.
Je dois l'avouer qu'il a réclamé quand même beaucoup.
Non, mes interventions ne sont pas gratuites.
J'en étais sûr.
C'est pour ça qu'il sera là une fois par mois. Donc
on va finir ruiné, quoi.
Non, mais là, j'ai un crédit à rembourser, je vais venir plus souvent.
Tous les jours. Ouais.
En tout cas, on attend la crémaillère, hein, avec impatience.
La crémaillère. On invite qui?
Tout le monde, tous les auditeurs.
Okay. On a les auditeurs. On vous donnera l'adresse, hein, dans les prochains jours, si Lucas est d'accord. J'espère que votre bonne humeur va se poursuivre, messieurs, avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez, messieurs, d'un événement qui vous a fait plaisir ou non. Cette semaine, c'est assez mitigé. La semaine dernière, c'était que des coups de cœur. Cette semaine, c'est mitigé. Deux coups de gueule, deux coups de cœur. Et c'est Timothée Rouvière, vous nous offrez le premier coup de gueule de la saison. Et c'est sur la violence dans le rugby, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, Jean. Alors moi, je vais vous parler d'un joueur emblématique du rugby club toulonnais qui s'appelle Charles Olivon, qui a 25 ans, qui est un joueur qui n'a pas explosé au plus haut niveau, mais qui multiplie les blessures depuis plusieurs années. Et là, il a encore été blessé à l'épaule à l'entraînement. Il va peut-être devoir arrêter sa carrière à l'âge de 25 ans seulement. Voilà, on peut quand même se poser la question de la violence dans le rugby. On peut rappeler par exemple le cas de Samuel Ezeala qui a, pour son premier match contre le Racing, a pris un KO terrible. Ouais. Et voilà, donc moi, mon coup de gueule, il est sur la violence dans le rugby, sur comment ça se fait que depuis la professionnalisation du rugby, les joueurs prennent plus de KO, qu'il y ait des décès. Voilà, moi j'alerte un petit peu sur ça.
Aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, les rugbymen sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, beaucoup plus rapides. Comment c'est possible de finalement
tout est dans la préparation. Après, le cœur du problème, il est justement, c'est le serpent qui se mord la queue. Il est dans la préparation aussi. Les joueurs se préparent beaucoup, mais se préparent peut-être pas forcément bien. Je pense qu'il faut aussi réviser beaucoup de choses, et notamment à la base, comme la technique de plaquage. On a vu qu'au fil des dernières années, le plaquage dit share tackle, qu'on appelle, c'est-à-dire qui consiste à plaquer le joueur en haut pour bloquer la balle, l'empêcher de faire la passe, s'est développé. Et je pense que ce type de plaquage est à l'origine de beaucoup de commotions, puisque le choc est frontal, c'est le haut du corps contre le haut du corps, et ça peut être mortel.
Ça va mettre plusieurs années, mine de rien, à changer, parce que je crois qu'on a vécu plusieurs années, justement, où les éducateurs oubliaient un petit peu que le rugby était un sport d'évitement.
Exactement.
Et il y a des joueurs maintenant qui vont à la castagne, mais volontairement, hein, donc c'est complètement stupide. Au rugby, on est censé éviter celui qui nous plaque plutôt que de chercher l'affrontement et de rentrer dedans. Et effectivement, de temps en temps, si le gars en face oublie de se baisser et qu'on prend l'épaule en plein dans la tempe, ça peut faire très mal.
Est-ce que tous les joueurs doivent jouer avec des casques dans le rugby? Ça doit être obligatoire?
Bon, je pense pas. Je pense que ça vient vraiment de la technique de plaquage. Après, c'est une problématique que le football américain a connue à une époque. Il faudrait peut-être voir comment ils ont réfléchi, comment ils ont changé le jeu et quelles modifications ils ont apportées. Après, oui. Je pense que le rugby, c'est pas un sport qui se prête à mettre des grands équipements et puisque c'est un sport de mouvement à la base.
Donc, puis le football américain, effectivement, il y a eu des soucis dans le rugby, on va dire immédiat, alors que le football américain, bon, ça arrive plusieurs années après. Les types meurent à 40 ans ou 50 ans. Je pense pas qu'ils aient réglé tous leurs problèmes, loin de là.
Ouais, mais on voit aussi que les choses vont dans le bon sens. On a vu que les instances de rugby ont interdit les plaquages jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc on peut être positif, mais voilà, c'est un problème récurrent et c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps pour éviter les problèmes.
Mais il faut pas tant annuler les plaquages que de leur apprendre à les faire, quoi.
Oui, faut aussi, voilà, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un sport d'évitement, donc voilà.
Hier, messieurs, l'équipe de France s'est imposée face aux Pays-Bas, 2-1 pour le match de l'UEFA Ligue des Nations, grâce à un but d'Olivier Giroud, et c'est d'ailleurs le coup de cœur de Lucas.
Mais bien sûr, Giroud sauve la patrie.
Heureusement.
Mais oui, mais comme il l'a fait à la Coupe du Monde, n'est-ce pas, en restant muet quelque part, c'était son rôle. En tout cas, c'est quelque chose qu'il n'a pas de mal à faire, c'est-à-dire travailler pour le collectif. Bon, hier, c'est vraiment son but qui mérite d'être souligné, parce qu'il a fait un match par ailleurs assez médiocre.
Moyen, ouais.
Et notamment, il est pour moi en partie responsable de l'égalisation des Pays-Bas, puisqu'il fait une remise de la tête en retrait. Voilà, il a son jeu de remise, c'est quand même un gros point fort. Et hier, ça lui a coûté assez cher. Mais moi, j'aime son état d'esprit, j'aime son abnégation, j'aime le fait qu'il ne doute pas, peu importe qu'il joue en club ou pas, peu importe qu'il soit critiqué ou pas, il est toujours là. Et son but en plus, c'est magnifique, moi je trouve.
Il place
le pied là, juste au-dessus du tibia adverse, un réflexe magnifique, un but très important. Voilà, ça, il met fin à sa série. Et puis on a vu aussi une espèce d'osmose après avec les joueurs, que j'ai beaucoup aimé. Une ovation du Stade de France après, c'était très bien.
Il est aimé dans le groupe, Olivier Giroud, et c'est finalement ça embêtait presque tous les joueurs qui ne marquent pas depuis 10 matchs, et surtout qui n'est pas marqué à la Coupe du Monde. Alors on sait son importance, bien évidemment, durant la Coupe du Monde, Marie.
Ouais, et son importance sur le terrain, mais aussi on n'en a pas forcément parlé, mais dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense notamment à Tolisso, qui a été interviewé ce week-end par Canal+, mais qui nous disait un peu une histoire de vestiaire. Giroud, qui en fait, il y avait une petite tradition à chaque avant-match, qui lâchait un gros commande, et il nous disait mais ça nous galvanisait, ça nous permettait d'arriver sur le terrain.
C'est dommage, c'est pas trop apparu dans le documentaire qu'on a vu.
Mais... Ouais, c'est vrai, c'était un aspect.
Mais Olivier Giroud, est-ce que sans lui, on aurait gagné la Coupe du Monde?
C'est difficile à juger.
C'est difficile à dire. Hein.
Voilà. Ah ouais, non, c'est impossible à dire.
Pour un seul joueur.
Moi, il a été très important
dans ce système-là.
Moi, je pense que les vainqueurs ont toujours raison. Donc, à partir de là, la question se pose pas.
Maxime Brossard, il y a un coup de gueule ce soir. C'est pour c'est pour la boxe.
Effectivement, oui. Je vais essayer de mettre KO la boxe. Enfin, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
Non, ouais, moi c'est surtout en prévention du match de ce week-end, du gros match de ce week-end qui va arriver, du gros combat plutôt, entre Golovkin et Canelo Alvarez. Et je voudrais faire un coup de gueule sur l'arbitrage en boxe, qui est de plus en plus catastrophique au fil des années. On a vu déjà, en fait, si ça sera la revanche, ce combat, Golovkin-Canelo Alvarez, puisque au match aller, il y avait eu un match nul à l'issue du combat. Oui. Et c'est une décision qui a été très critiquée, oui, puisque Golovkin a largement dominé le combat et finalement on a accordé un match nul. Et c'est très problématique, puisque c'est quelque chose qui revient souvent dans l'arbitrage en boxe et qui gâche les événements, qui gâche les grandes réunions et qui fait que ce sport est un peu en perdition. Alors je pensais aussi notamment l'exemple très connu d'Alexis Vastine, qui a perdu plusieurs médailles d'or à cause d'un arbitrage, on va dire, tendancieux. Et là, j'avais un exemple tout récent. J'ai vu que c'était ce week-end, donc, le boxeur britannique Amir Khan qui affrontait Vargas, un Canadien. Amir Khan est allé deux fois au tapis. Il a pris deux knockdowns et il a quand même réussi à gagner le combat. Donc voilà, expliquez-moi où est le jugement, où est le sport là-dedans.
C'est vraiment de pire en pire, parce que justement, à l'époque d'Alexis Vastine, je m'étais dit bon, on peut quasiment pas faire pire que ça, et vraiment c'est
ah oui, c'est
ça a empiré d'année en année, quoi.
Je sais pas si vraiment dans les très très grands combats, bon, là ils avaient déclaré un match nul, après c'est une question de point de vue, mais honnêtement je pense que l'arbitrage a vraiment intérêt à se remettre en question dans la boxe, et parce que sinon l'UFC, notamment le MMA, va prendre le pas très rapidement.
Et on va finir sur un coup de cœur, messieurs, c'est Marek Keita. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de France avec la victoire contre les Pays-Bas. en UEFA, Ligue des Nations, la nouvelle compétition de l'UEFA, c'est d'ailleurs le coup de cœur.
Ouais, c'est mon coup de cœur. On en parlait la semaine dernière donc avec Timothée. Et finalement, cette compétition, elle me déçoit pas. Il y avait une sorte de suspicion généralisée de la part des observateurs qui étaient inquiets sur la légitimité de cette compétition. Même des joueurs, on a vu Pogba qui était là, mais c'est quoi cette Ligue des Nations? Bon, et au final, moi, je dois dire que je suis agréablement surpris de l'intensité de la compétition, de la qualité du jeu, qui pour l'instant, on peut le voir, par exemple, je pense à l'Espagne qui a renoué avec la victoire face à l'Angleterre. Après son mondial donc raté contre la Russie, mais c'est aussi la Suisse qui a cartonné contre l'Islande
6-0.
La France, parlons-en, qui affrontait avant donc les Pays-Bas ce week-end, qui affrontait donc l'Allemagne. Et je vais certainement me faire des ennemis, mais malgré le 0-0, moi j'ai trouvé que dans le fond il y avait de l'intensité sur ce match. Et surtout,
les équipes se jouent le jeu finalement. Elles mettent pas, elles auraient pu mettre l'équipe B, faire tourner.
Absolument.
Les équipes, même les grosses nations, jouent le jeu.
Absolument. À mon sens, cette compétition, elle change des traditionnels matchs amicaux qui, effectivement, ils sont là pour
sans
tester
intérêt,
les équipes.
Hein. Six changements à la mi-temps, ça change tout.
Ça change, mais la nouveauté, c'est pas forcément toujours mieux. Là, pour le coup, moi, le truc qui me dérange avec cette Ligue des Nations, c'est son format, pour moi, assez incompréhensible.
Ouais, format est compliqué.
On sait qu'il y a des enjeux, mais on sait pas vraiment lesquels. Enfin, si quelqu'un est capable de me le résumer, là, je suis preneur. Non, c'est juste ça que je critique, parce que le fait qu'il y ait une compétition, qu'il y ait quelque chose, c'est pas mal, effectivement. Mais les qualifications, quelque part, c'était déjà quelque chose avec un enjeu. Bon. Il y avait de moins belles affiches, là, je veux bien le reconnaître.
Mais juste après la musique, on se retrouve avec le débat pour le Stade Toulousain, les résultats sportifs et notre invité, Philippe Gardan, l'entraîneur du Phoenix Toulouse Handball.
Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus celle. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus seul. Et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, chanson est naïve, même un peu bête, et bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez. Entrez dans la danse.
C'était Grégoire sur Radio Présence.
Oui,
il marche pas.
Sport bien. Jean sur la dame.
Mais il est là. Il est là, le superbe jingle. 5 ans, un week-end chargé pour les amoureux de sport. On fait le point avec vous, Timothée Rouvière. Comme on en a parlé là, juste avant la pause musicale, c'était le début de la Ligue des Nations et un bon début de campagne pour l'équipe de France.
Oui, après le match nul 0-0 contre l'Allemagne jeudi, les Bleus ont battu les Pays-Bas 2-1 hier soir avec des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Avec 4 points, les Bleus prennent la tête de leur groupe. A noter aussi les victoires de l'Espagne face à l'Angleterre 2-1, le match nul entre la Pologne et l'Italie 1-1, mais aussi les cartons de la Suisse face à l'Islande 6-0 et de la Belgique contre l'Écosse 4-0.
Grosse actualité rugby en ce début de semaine avec pour commencer la victoire du Stade Toulousain, on va en parler tout à l'heure.
Oui, le Stade Toulousain marche toujours aussi fort en ce début de saison après avoir ramené un match nul et une victoire de Lyon et une victoire face à Grenoble. Les stadistes disputaient leur premier match à domicile face à La Rochelle et ils se sont imposés 33-26 avec 5 essais à la clé. Les hommes du Gomola pourront tout de même avoir des regrets en fin de match après avoir laissé filer le bonus offensif. Les Castrés ont eux subi leur première défaite de la saison d'un tout petit point, 28-27 face à l'Armada toulonnaise, mais les Tarnais n'auront pas à rougir de leur performance et ramènent le bonus défensif de Mayol. Au classement, Clermont est en tête après sa victoire face au Stade français 42-20 devant le Racing 92 qui a atomisé Agen 59-7 avec 9 essais à la clé et donc le Stade toulousain. Avec 3 défaites chacun, Grenoble et Perpignan se partagent les 2 dernières places du classement. En Pro D2, cela va mal pour les clubs de la région avec les défaites de Colomiers face à Carcassonne, 25-20, de Montauban face à Mont-de-Marsan sur le même score et de Béziers face à Brive 27-6. Au classement, Mont-de-Marsan domine devant Oyonnax et Provence Rugby.
En moto, victoire italienne au Grand Prix de Saint-Marin.
Oui, pour la 3e fois de la saison, c'est l'Italien Andrea Dovizioso qui s'impose sur Ducati devant le quadruple champion du monde Marc Marquez et l'Anglais Kyle Crutchlow. 9e sur la ligne, le Français Johan Zarco n'a pas réussi à exister durant cette course et se classe seulement 10e, bien loin des promesses du début de saison. Joli triplé à souligner pour les Italiens qui se sont imposés en Moto 2 et en Moto 3.
Sur la Vuelta, les Français continuent de bien marcher.
Oui, avec 2 victoires d'étape pour les coureurs français cette semaine. Jeudi, c'est Alexandre Géniez de l'équipe AG2R La Mondiale qui s'est imposé. Hier, le leader de la FDJ, Thibaut Pinot, a remporté une victoire de prestige à Covadonga devant les cadors de ce Tour d'Espagne. Au classement général, c'est toujours l'Anglais de la Mitchelton Scott, Simon Yates, qui domine. 2 autres infos vélo avec le 3e titre de champion du monde pour le Français Loïc Brunier en descente. Belle 3e place chez les femmes pour la Française Myriam Nicole. Et une victoire aussi pour Julien Alaphilippe sur le Tour de Grande-Bretagne. Le Français s'impose au classement général et n'en finit plus de gagner en cette fin d'année 2018.
C'est chargé en sport et ça continue avec le tennis, un nouveau titre de Grand Chelem pour Novak Djokovic.
Oui, le Serbe s'est imposé en finale de l'US Open face à Juan Martin Del Potro, 6-3, 7-6, 6-3. Vainqueur de Wimbledon en juillet dernier après 2 années perturbées par les blessures, Djokovic est désormais 3e au classement ATP. Chez les femmes, c'est une grande première pour la japonaise Naomi Osaka. La numéro 7 mondiale a battu la reine américaine Serena Williams, 6-2, 6-4, au terme d'un match perturbé par l'arbitrage.
En handball, la saison débute mal en championnat pour le Phoenix face à des cadors du championnat.
Oui, une défaite 30-28 face à Chambéry lors de la première journée de championnat. Une défaite, mais des motifs de satisfaction pour les hommes de l'entraîneur du Phoenix, Philippe Gardan.
Ouais, c'est encore un petit peu en rodage parce qu'on voit encore que le niveau de l'attaque, c'est pas encore tout à fait fluide, mais malgré cela, je pense que c'est un match qu'on peut aussi remporter. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a 4 immanquables à la fin qui nous font, dans le money time, qui nous font mal. Quoi. Donc, je veux dire, parce que défensivement, je trouve que c'est intéressant par contre. Tu vois, il y a une grosse activité, il y a des choses qui ont été bien. Donc, pour nous, c'est assez positif. Voilà, après, effectivement, on attaque, on a encore quelques rodages, mais encore une fois, je pense que ce match-là, il était à notre portée.
Des Toulousains qui se sont bien rattrapés en remportant une belle victoire face à Grenoble 28-21 lors du premier tour de la Coupe de la Ligue. Dans les autres rencontres de cette première journée de championnat, Montpellier s'est imposé face à Aix en Provence 26-23. Paris et Nantes n'ont pas fait de détails en s'imposant respectivement face à Ivry et Ponto Combo. Au classement, c'est le Paris Saint-Germain de Nicolas Karabatic qui domine devant Nantes et Tremblay. Le Phoenix est 10e avant son match contre le champion d'Europe en titre Montpellier.
Et pour finir, un petit résultat de basket.
Oui, l'équipe de France de basket masculin s'est imposée pour sa grande première sans son capitaine néo-retraité Boris Diaw en amical face au Monténégro 83-66. Mais la grosse performance, elle est pour les filles de Valérie Garnier qui ont battu les Australiennes 88-67 à 2 semaines du début de leur championnat du monde.
Sportez-vous bien. Le débat.
Messieurs, le premier débat de la soirée, on va partir pour le ballon ovale, le rugby. Depuis 2012, le stade toulousain est à la recherche d'un nouveau trophée, frôlant même la relégation en 2017. L'un des plus gros clubs de rugby de l'Hexagone semble retrouver des couleurs avec deux victoires et un match nul. Le stade toulousain nous offre un jeu offensif plaisant en ces débuts de saison. Messieurs, c'est simple, on répond par oui ou par non. La question, a-t-on retrouvé le grand stade toulousain, Maxime ?
Non.
Marek ?
Non.
Timothée ?
Oui.
Et Lucas ?
Mouais.
Alors pourquoi mouais ?
Bah, parce que le grand stade toulousain, on le retrouvera sans doute jamais. Je vois pas comment un club pourrait redominer le rugby comme ça, comme le stade toulousain l'a fait pendant presque 20 ans. Non, je pense qu'on le retrouvera jamais, le grand stade toulousain. Après, est-ce qu'on a retrouvé un stade toulousain très compétitif qui peut gagner le top 14 ? Oui.
Maxime ?
Ouais, je suis d'accord avec l'analyse de Lucas. J'ajouterais que... Alors, c'est un peu tôt pour vraiment se projeter et dire qu'on va retrouver le grand stade toulousain, puisque quand on regarde les matchs, il y a quand même encore quelques réglages à faire. Et oui, effectivement, le jeu offensif est toujours là, la patte, le jeu à la toulousaine est là, les recrues sont performantes, enfin... Il y a les éléments pour faire une grande saison. Maintenant, on va voir si ça va prendre.
Le début de saison est très bon. On le rappelle, de victoire à match nul. Est-ce que, Timothée Rouvière, on peut s'imaginer à la place du Capitole, tous en rouge et noir, avec le bouclier de Brennus ? Est-ce que c'est possible sans mois de juin ?
Alors oui, moi j'ai envie qu'on y croit quand même, parce qu'on voit le recrutement. Entre un double champion All-Black, Jérôme Queneau, on a réussi à garder des bons joueurs comme UG, Colby, il y a des petits jeunes qui arrivent, etc. Moi, je pense vraiment qu'on peut faire un bon résultat.
On en a perdu quelques-uns aussi quand même, hein.
On en a perdu quelques-uns, mais on les a remplacés, même plus que bien, moi, je pense. Hein. Donc, je pense qu'on peut vraiment tous se retrouver au Capitole en juin prochain. Mais attention, il faudra surtout gérer la Coupe d'Europe aussi. Hein.
Oui, la Coupe d'Europe. Et puis, il y avait une stabilité quand même qui était revenue. Justement, Hugo Mola a mis du temps à trouver son équilibre. Et là, moi, je pense que le départ des joueurs, bon, ça va peut-être pas se sentir. Et puis, la mayonnaise va peut-être prendre, et effectivement. Mais méfions-nous. C'est quand même des gros départs. Et ça se verra sur le long terme si vraiment ça leur a pas fait trop de mal.
Les doublons, est-ce qu'ils vont avoir un impact pour le stade toulousain cette saison, Maxime ?
Mais c'est un peu, on va dire, la ritournelle des saisons toulousaines. C'était les doublons, combien de joueurs vont être pris en équipe de France, comment on va composer. Bon, les années passant, le stade toulousain étant un peu moins sur le devant de la scène, il y a moins de joueurs qui sont appelés en équipe de France.
C'est tout bénéf finalement pour le stade.
C'est un peu plus bénéfique pour le stade toulousain, effectivement.
Il y a quelques internationaux français qui sont partis. Là-dessus.
Voilà, qui sont partis en plus. Donc bon. Ça peut-être que ça aura moins d'impact cette année. Et je pense que justement, il faut en profiter avant que justement, il soit de nouveau dans la lumière et que de nouveau des joueurs soient appelés. Quoi. J'ai même vu qu'il voulait appeler Zach Holmes, qui était australien et qui apparemment aurait la possibilité peut-être de jouer pour la France.
Ça ferait du bien, un bon ouvreur en France.
Oui.
ça serait pas mal. Et est-ce que l'effectif est assez qualitatif pour être champion de France ?
Oui, moi je pense qu'il est assez qualitatif pour être champion de France. Comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, on a renforcé les postes partout. Il y a des petits jeunes qui sont en train d'éclore, que ce soit Dorian De Guéry, Cyril Ball, etc., qui sont néo-internationales.
Les frères Marchand.
Oui, les frères Marchand aussi, tout à fait. Et il y a une belle charnière avec Romain Ntamack, on a parlé de Sébastien Bézi, Zach Holmes, etc. Donc oui, c'est compétitif.
Et puis s'il y a bien un truc qu'il faut retenir de la saison dernière, c'est que c'est pas la qualité intrinsèque de l'effectif qui fait un champion de France. Non. C'est à un moment donné une osmose, un esprit de guerrier, de solidarité. Qui fait que voilà, Castres a décroché le titre à la surprise générale l'année dernière. À partir de là, on peut tout imaginer.
Marek Keita ?
Ouais, après, j'aimerais bien qu'on revienne sur le match de ce week-end. Certains ont pointé effectivement le retour du fameux jeu de main, jeu de Toulousain, avec notamment ce bel essai conclu par Ugé, je crois, qui était amené par je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, je préfère m'attarder sur le relâchement dès la 60e minute en seconde période.
Ça peut leur faire défaut dans l'année, ça.
Bah c'était déjà un gros souci l'année dernière, ça.
Ouais, une équipe qui est pas capable de garder le même tempo alors qu'on est encore en début de saison.
C'est difficile, surtout en début de saison où les jambes peuvent être vite fatiguées. Même s'il y a une préparation physique, il y a quand même le contre-coup de cette préparation physique, surtout pour le haut niveau. C'est assez intense.
Oui, mais
c'est logique finalement, non ?
Après, en termes d'attente, le problème avec le Stade Toulousain, c'est que les supporters du Stade Toulousain sont quelque part des enfants gâtés, très gâtés.
Très exigeants.
Ouais. Et donc, en fait, ils s'attendent toujours à ce qu'il y ait la victoire et la manière qui va avec. Sauf que les deux ne vont pas toujours ensemble, malheureusement. Je pense qu'il va falloir aussi peut-être que les supporters soient peut-être moins exigeants, peut-être un peu moins d'attente, mais qu'ils se contentent quand même des victoires qu'on espère.
Samedi soir, en même temps que le football d'ailleurs, il y a le Stade Toulousain qui affronte le Racing 92. Est-ce un match clé déjà ?
On va en reparler de ça, du fait que les deux clubs toulousains encore jouent en même temps. Merci.
Merci.
Non, c'est tôt. Enfin, match clé. Le problème du rugby, c'est qu'en fait, il vous suffit de finir sixième et vous pouvez être champion de France. Donc, au final, même si vous perdez quelque part des matchs contre des cadors, vous avez la possibilité de vous rattraper, de grappiller des points par-ci, par-là, et puis finalement de passer et ensuite d'aller jusqu'au bout.
Timothée Rouvière ?
Moi, je suis d'accord avec vous, Maxime. On peut pas parler de match clé pour l'instant parce qu'on a quand même des équipes. On a un top 14 qui est très dense avec des équipes comme le Stade Français, le Racing, Toulon, Clermont. Donc, tous les matchs vont être difficiles et il faut être prêt à 100%.
Justement, par rapport à la concurrence, Clermont, le Racing 92 domine pour l'instant avec Toulouse le début du championnat. Comment juger la concurrence pour le Stade Toulousain cette année ?
Voilà, Clermont, ils font un peu peur en ce début de saison. Oui, hein, ils sont revanchards, les jeunards.
Mais en fait, moi, Clermont, ils me font pas trop peur, quoi, parce que dès qu'ils arrivent, quand ils sont en finale, ils ont toujours ce blocage psychologique. Donc en fait, Clermont, finalement, c'est pas l'équipe qui me fait le plus trembler, quoi. J'aurais plus peur du Stade Français, finalement, qui a fait un recrutement très intéressant.
Et c'est un bon budget du top 14 cette année.
Et en plus, ils ont Henke Meyer qui coach tout ça. Enfin, ils ont un staff pléthorique. Ils ont Paul O'Connell, ils ont Julien Dupuis. Enfin, ils ont quand même. Moi, je pense que ça peut être un bon outsider.
Oui. Un mot sur la Coupe d'Europe aussi. Le Stade Toulousain va jouer la Coupe d'Europe. Bon, en même temps, quasiment tous les clubs de top 14 jouent la Coupe d'Europe.
La grande Coupe d'Europe.
Là, ils sont quadruples champions d'Europe. Le dernier titre. En 2010, que peut espérer le Stade Toulousain cette année sur la scène européenne ? Privilégier le top 14 ?
C'est encore plus difficile à dire et à prévoir que le top 14.
Ouais, il faudrait qu'ils visent la qualification, on va dire. Mais après, de là, aller très loin, je pense qu'il y a un gouffre.
Les tirages au sort ont lieu ou pas ? Oui, ils ont lieu.
Oui. Ils ont je ne me rappelle plus exactement la poule qu'ils ont, mais je pense que c'est quand même. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Mais quelle que soit la composition de la poule, je pense qu'ils devraient au moins peut-être essayer d'aller d'accrocher une place qualificative.
Après, ouais, et puis après, on verra. Hein.
Dans moins de 4 minutes, messieurs Philippe Gardan, l'entraîneur du Phoenix Toulouse Handball, sera avec nous en studio pour nous parler du début de saison de handball. À tout de suite. Il n'y a pas de musique.
Regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là.
C'était Amir sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Et notre invité ce soir est champion du monde de handball en 1995 avec les Bargeaux. Aujourd'hui, il fait le bonheur et entraîne le Phoenix Toulouse Handball. Philippe Gardan, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Voilà, je viens de le dire, vous avez été champion du monde. Comment vous avez vécu le titre de champion du monde de football cet été avec l'équipe de France? Ça rappelle des bons souvenirs?
Ah bah forcément, d'autant plus que moi j'étais au Brésil en vacances et j'avais croisé les doigts pour avoir une demi-finale France-Brésil là-bas, ouais, ça aurait été quelque chose. C'est bien sûr, ça nous rappelle des bons souvenirs, même s'ils commencent à être un petit peu lointains pour moi, mais voir une équipe de France comme ça dans un sport co, parce que moi je suis toujours une sensibilité sur le sport co, gagner un titre mondial, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, autant pour eux que pour tout le monde.
Et la détresse brésilienne, c'est quelque chose de puissant ou pas?
Ah ouais, je vous le confirme.
C'est la légende des...
Ça a été un traumatisme. Ouais. Ça a été un traumatisme.
C'est fou ça.
Ah ouais, c'est incroyable. Entre le temps qu'ils étaient qualifiés, c'était la folie furieuse. Et le jour où ça a été la débâcle, ça a été vraiment un un énorme traumatisme là-bas.
On rappelle qu'ils ont perdu en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, que nous avons battu, oui. Bien évidemment,
oui,
le tour suivant. Vous avez été dans ce cas, de ce que vivent Pogba, Griezmann, Mbappé, Intel. Comment on se remobilise après une victoire en Coupe du Monde? C'est difficile?
Il faut reconnaître que ce n'est pas facile, parce que l'atterrissage est un petit peu long. Et après, ça dépend un petit peu des personnalités, des clubs où on est aussi, où on évolue. Il y a des clubs où on met tout de suite la pression et on n'a pas beaucoup de choix. Mais c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, ça a été un petit peu long et on a voulu quand même pérenniser un petit peu ce plaisir, parce que c'était à l'époque où l'handball était pas forcément encore très connu, même si on avait eu la médaille de bronze au JO, on avait été vice-champion du monde en 93. Voilà, on sortait un petit peu du tunnel, nous, donc on voulait profiter un petit peu des projecteurs, et on a pérennisé ça le plus longtemps possible, même si les entraîneurs et les présidents des clubs râlaient un petit peu.
Ouais. En plus, vous avez été les pionniers, parce que bon, là, on peut se dire même qu'ils ont eu pas mal de modèles, d'exemples, nos Français cet été, alors que vous, en 95, les handballeurs, les premières personnes n'étaient...
C'est bien de le rappeler, parce que la plupart des gens pensent que c'est 98, et malheureusement non pour eux, c'est 95, c'est le hand, et effectivement, on a été donc les pionniers, et on a à certains moments échangé, alors pas forcément eux, parce qu'eux étaient quand même un peu jeunes à l'époque, mais avec leurs anciens, comment fêter un titre de champion du monde.
En étant joueur, est-ce qu'on a un passe-droit après le titre de champion du monde? Est-ce que c'est plus facile finalement à dire les choses dans un vestiaire, à des responsables, des présidents, des entraîneurs?
Des entraîneurs, présidents, pas trop. Oui, bien entendu, face aux partenaires qui ne le sont pas. Bien que quand on est dans des clubs un peu huppés, la plupart sont internationaux ou ont déjà des titres. Ouais, donc, oui, je dirais oui et non, parce que celui qui prend un peu trop la parole et commence à avoir un petit peu le boulard, on va se le châtier aussi.
Surtout en France.
Donc, le remettre un petit peu dans la ligne, mais effectivement, ça donne quand même un petit crédit quand même supplémentaire.
Le handball a 6 titres de champion du monde, dont 2 de suite 2017. Est-ce que finalement le handball français n'est-il pas rempli d'extraterrestres pour durer au niveau aussi longtemps? Vous venez de le dire, c'est difficile de redescendre sur Terre, et eux, tous les deux ans, pensent ces titres de champion du monde.
Ouais,
c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué pour les autres surtout. mais on le mérite, parce que c'est vrai que c'est un sport où ça travaille beaucoup dès le plus jeune âge. Hein. On n'est pas champion du monde comme ça en sortant à 25 ans. Il y a une formation qui est extraordinaire. On a des éducateurs, des formateurs, des entraîneurs qui sont franchement très performants. Et on a la chance aussi, par le système français quand même, parce qu'il faut quand même l'évoquer, on est pratiquement un des seuls pays quand même à cibler les jeunes, par exemple à partir de 9 ans, 10 ans, et les gamins font du handball, commencent à faire du handball presque tous les jours, on va dire. Donc avec nos systèmes d'école de handball, après il y a les pôles, il y a les sports-études, les centres de formation, et contrairement aux autres nations, nous on peut attraper un jeune très vite, quoi. On a sincèrement quand même des beaux avantages.
Mais là on parle pas non plus que de technique, on parle surtout de mental, parce que ce qui est incroyable dans ce sport, c'est que ça joue, pour moi encore plus que pour le foot ou d'autres, sur des détails, un arrêt, une contre-attaque, et ça basculait à chaque fois pour la France. On est au-dessus de la formation, là.
Oui et non. Parce que ça se forme aussi, hein, l'exigence, le mental, ça se forme aussi dès le plus jeune âge. Maintenant, il est clair qu'il y a eu toujours aussi une transmission, et dès l'époque des Bargeaux, hein, quand les autres sont arrivés, il y a toujours eu cette volonté de gagne, de hargne, de respect des valeurs. Ça se perdait un tout petit peu dans les autres sports. Nous, on a voulu être encore les garants de cela. Et c'est vrai que de génération à génération, ça s'est transmis. Et voilà, et la culture de la gagne est arrivée. Et celui qui ne respectait pas ces critères-là était éjecté automatiquement.
Quelque part, ça fait du bien de rester un petit peu dans l'ombre d'autres sports en France, peut-être pour ça.
Ça, c'est vous qui le dites.
Non, c'est ce que j'entends.
J'ai fait quand même 25 ans dans l'ombre. Donc, non, je pense qu'on a. On n'a pas encore, j'irais, le retour de l'investissement, parce que on est pratiquement l'équipe, enfin le sport au monde qui est le plus titré. Hein, donc on espère quand même un peu plus de retour, notamment au niveau de nos chères entreprises qui souvent investissent beaucoup dans le foot et qui viennent pas trop dans l'or, nous peu.
Et justement, aux yeux du peuple français en France, le Brésil en foot, c'est le sport national. Les USA, les États-Unis avec le basket, c'est le sport national. Le hockey sur glace avec le Canada, le rugby avec les All Blacks. Pourquoi en France, on est 6 fois champion du monde, on est 2 fois champion olympique, on parle même pas des titres de champion d'Europe. Pourquoi c'est pas le sport national en France?
Parce que il y a certains qui nous cassent les pieds. Moi, ça fait, on a été donc médaillé olympique, vice-champion du monde, champion du monde, et re-champion du monde, etc. Et à chaque fois, on disait c'est bien, mais il faut confirmer.
Donc, la confirmation est là.
Donc, et c'est vrai qu'il y a. Et moi, j'en profite pour remercier ceux qui nous suivent. Par contre, que ce soit au niveau des équipes nationales, mais au niveau des clubs, et notamment au niveau du Phoenix, souvent c'est mais le hand, vous êtes super et tout, vous êtes encore vous avez des belles valeurs, on peut vous approcher, discuter et tout, et puis au moment de mettre un petit chèque pour pouvoir nous aider, tout le monde s'enfuit parce que on est encore considéré. Bon, maintenant ça va un peu mieux quand même, faut reconnaître que c'est quand même beaucoup évolué, mais on était considéré comme un sport scolaire, des gentils garçons, des profs de gym, etc. Et donc on a eu du mal à sortir de cette étiquette là on y arrive maintenant, et voilà. Donc j'invite franchement à venir nous rejoindre tous là, parce que voilà, on a pérennisé quand même ces résultats. Maintenant, on le fait au niveau des clubs, puisqu'on voit maintenant que Montpellier, Nantes, PSG,
podium de Ligue des Champions,
sont en finale fort de la Ligue des Champions. Donc, on peut plus dire maintenant c'est que l'équipe nationale aussi. Donc voilà, donc il y a tous les ingrédients pour pouvoir enfin faire grandir encore ce sport-là, parce qu'on a encore une marge.
Et pourtant, vous allez peut-être vous faire lâcher. Vous avez vu, vous entendu parler de ces 1600 postes qui étaient un petit peu remis en question au niveau du ministère des Sports, et le hand fait partie des sports qui risque gros, non?
Pas plus que les autres, mais effectivement, on va. Et ça, c'est effectivement un risque, parce que je vous parlais tout à l'heure de toute la formation, l'éducation au niveau des jeunes et tout ça, ce sont aussi parmi ces 1600 personnes. Donc,
les directeurs techniques.
Exactement, des CTS ou des conseillers techniques départementaux, etc. Donc il va falloir être vigilant. On n'est pas à l'abri non plus, ils sont en train de parler aussi éventuellement de réduire aussi au niveau des JO certains sports, et on n'est peut-être pas à l'abri, parce que sur le quand on regarde la map monde, le hand n'est pas forcément non plus un sport ultra mondialiste, on va dire.
Pas globalisé.
Ouais, et bizarrement, le volet est plus nombreux que nous, quoi. Donc, en France, c'est de la misère.
Vous passez un peu plus en prime time sur les télévisions gratuites. Ouais. On pense à l'équipe de France pour les finales chez nos confrères de TF1. Les droits TV, c'est une aide, on le sait, pour les clubs. Il faut encore un peu plus.
Alors, les droits TV, c'est la misère complète. Pour vous dire un exemple, le Phoenix touche 125 000 euros de droits télé par saison.
Donc, pas grand chose.
Donc, c'est que dalle.
Ça pèse quoi sur un budget?
Ça pèse les citrons et. Des bons citrons, mais.
C'est bio.
C'est pour la Ligue nationale de handball, les droits télé, c'est 4 millions d'euros, donc ça représente que dalle.
C'est rien.
Alors, effectivement, moi, j'ai la chance de commenter sur TF1 quand il y a les matchs avec l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on a fait 13, 14 millions de téléspectateurs. Donc, je veux dire,
ce qui est énorme.
Mais c'est carrément. On a pété certains records. Donc, il y a quelque chose, il y a une demande quand même, il y a quelque chose, mais malheureusement.
Il faut casser les habitudes, je ne sais pas comment, mais il faut le faire.
Ouais. Mais il y a quand même des sports qui thésaurisent un peu tout aussi.
Comme le football. On parlait de l'équipe de France, est-ce qu'un jour être sélectionneur, ça pourrait vous intéresser?
Alors, ça l'a été à un certain moment, un petit peu moins maintenant. Un petit peu moins maintenant. J'avais été sollicité en 2001, on était en.
Allez.
Pour parler, en discussion.
C'était
et
avant Constantini, c'est ça
après, juste après, donc après, c'était Claude ou moi, en fait.
Oui, d'accord, ah oui. Okay.
Nesta ou moi. Bon, moi, j'étais tout jeune entraîneur, parce qu'on n'a pas le même âge avec Claude. donc voilà, puis ça s'est joué donc, sur Claude, et ma foi, le choix n'était pas mauvais quand même.
il se défend.
On aurait peut-être fait un septième titre de Jean-Pierre.
Voilà, il s'est pas trop mal défendu, et puis... Et puis beaucoup moins maintenant, en fait. Ouais.
En attendant, vous êtes l'entraîneur du Phoenix Toulouse Handball. Ouais. Comment vous jugez le début de saison ? Après une bonne préparation, ça a commencé par une défaite face à Chambéry et une victoire ce week-end en Coupe de la Ligue à Grenoble.
Ouais, alors sur la défaite, on est effectivement très déçus parce que Chambéry fait partie comme des équipes bien connues sur ce championnat. On savait qu'on n'était pas forcément très bien justement au niveau de préparation, on a eu quelques petits soucis au niveau des bobos, etc. Mais on avait fait un bon match et on avait ce match dans la main, puisqu'on était, on avait la possibilité dans Money Time de clôturer ce match-là. On a échoué au niveau du tir.
Trébillon qui en loupe à 2 minutes de la fin, à égalité.
Qui nous coûte très cher. Donc voilà, donc on est déçu. On s'est fait un petit peu la cerise sur la Coupe de la Ligue, mais franchement, c'était quand même pas d'un niveau non plus très
très intense.
Ouais, c'était pas top. Et puis là, pour se refaire la santé, on se retrouve à Montpellier chez nous.
Champion. Est-ce que c'est un match qu'on prépare sérieusement? Ça, c'est une évidence. Mais au début de saison, on se dit c'est un match gratuit, c'est un match bonus.
Certains le disent. Moi, j'avoue, j'ai du mal à me le dire parce que
surtout à domicile, non?
Surtout à domicile.
Ouais. Et puis si on se dit ça, on ne gagnera jamais. Enfin, je veux dire, l'exploit, si on veut faire un exploit, on l'a fait l'an dernier, parce qu'on a réussi à les battre en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Donc si on se dit ce match-là, machin, etc., ouais, on n'est pas invité. C'est vrai qu'on ne l'est pas d'ailleurs, mais il faut quand même le jouer. Quoi. Donc, après, il ne faut pas se perdre, parce qu'ils sont tellement compliqués à jouer que si on essaie de trouver deux ou trois failles, on va s'y perdre. Donc restons concentrés sur notre propre jeu, en essayant de l'améliorer, parce que pour l'instant, on n'est pas encore au top, loin de là. Et puis s'il y a une faille ou une fenêtre de tir, on va essayer de la prendre, mais on sait que ça va être extrêmement difficile.
Timothée Rouvière.
L'objectif cette saison, c'est quoi pour le Phoenix? C'est d'accrocher l'Europe?
Oui, bah comme beaucoup, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à la viser, on est plutôt mal parti.
Cette cinquième place là, coûte cher.
Oui, parce qu'on est nombreux là, à vouloir, parce qu'il y a Quatuor là-haut qui est quasiment intouchable, et après on a encore quelques équipes. Nous, le Phoenix, c'est quand même le 11e budget du championnat, donc on est ambitieux, on n'a pas forcément les moyens de l'être, mais on a fait quand même... Belle saison,
bonne saison l'année.
On finit 7e, donc on va se dire le champion de France des pauvres, parce qu'on fait partie de la première partie du championnat. On est en finale de la Coupe de la Ligue. On a fait 3 fois le final fort sur 4 en Coupe de la Ligue. Donc je veux dire, on est pas mal. Donc je veux dire, il est légitime d'essayer, quand on finit 2 fois 7e, d'essayer de regarder la 5e. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est plusieurs à la vouloir et ils ont un peu plus de moyens que nous.
Et justement, qu'est-ce qu'il manque au Phoenix pour accrocher cette place européenne? Ça fait déjà 2, 3, 4 ans que le Phoenix, en début de saison, dit « on veut être européen ». Et il manque toujours, sur les 2 derniers mois, il manque toujours un petit quelque chose.
Parce que déjà, c'est pas la philosophie du club de se planquer en disant on va essayer de se maintenir ou de jouer. Donc on est ambitieux, donc on essaie effectivement de donner des objectifs aux... je vais pas être très romantique, il nous manque un peu de sous.
Oui.
Parce que on est capable de taper des belles équipes, comme on a pu faire contre Montpellier ou Saint-Raphaël, etc. Mais par contre, sur la longueur, on est un peu court, puisqu'on n'a que 15 joueurs pro. La plupart des autres clubs ont 18 joueurs, donc il nous manque des rotations à certains moments. Et à un moment, on tire la langue. Donc voilà, donc à nous d'être vigilants, mais. Notre équipe a du talent. Maintenant, il nous manque quand même, encore une fois, pas mal de moyens.
Mais Philippe Gardant, merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve tout de suite, c'est pour l'agenda sportif.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
Et c'est Lucas Certi qui va nous présenter l'agenda sportif, le rendez-vous sportif de la semaine, Lucas.
Je sais pas, parce que vraiment...
Lucas Certi, quand je l'ai dit, je me suis dit j'ai fait une boulette.
J'ai pas une tête à m'appeler Grégory, enfin.
Grégory Certi, le joueur
de l'OM, ouais. Oui, l'agenda sportif, alors on a beaucoup de rendez-vous, et surtout toulousains pour ce week-end, notamment au top 14. On a une grosse affiche, donc le Stade Toulousain qui reçoit le Racing, ça démarre à 20h45 samedi soir. Grosse affiche du top 14 entre le 3e et le 2e. Évidemment, en même temps, enfin presque en même temps, à 20h, il y aura un match aussi de Ligue 1. Une grosse affiche aussi. Le TFC qui marche très fort en ce début de saison, qui est 3e et qui reçoit Monaco. Alors, il faut peut-être un jour qu'on nous explique pourquoi nos deux clubs toulousains arrivent vraiment pas à s'entendre.
On va faire une petite parenthèse, parce que ça m'énerve moi aussi. Ah, on va prendre une petite parenthèse, on va prendre 2 minutes. C'est quand même assez incroyable, Lucas, d'avoir dans une même ville deux clubs de haut niveau qui jouent le même jour et quasiment à la même heure, 20h pour le football, 20h45 pour le rugby. On s'étonne que les stades sont vides.
En fait. Mais ouais, non, mais c'est ça. Puis en plus à Toulouse, c'est un public, on l'a déjà dit, qui est compliqué, qui est un petit peu exigeant. Alors le faire venir dans les stades, c'est pas facile. Alors si en plus on leur propose deux beaux menus en même temps, ça va pas le faire. C'est quelque chose qui nous étonne vraiment. Il y a pas que bon là, c'est peut-être un problème de calendrier, donc indépendant des deux. Ouais. De clubs, mais c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des conférences de presse en même temps, qu'il y ait des choses comme ça. On se demande vraiment pourquoi ça se passe toujours de la sorte. Bon, il y aura d'autres rendez-vous en top 14 en rugby ce week-end. De belles affiches vraiment. Bon, Castres Grenoble, c'est l'occasion pour eux de maintenir leur niveau et de continuer sur leur lancée. Et on a donc ça, c'est à 18h samedi. Et on a Pau Clermont aussi. Alors là, ça va être très compliqué pour les Palois parce que Clermont ils sont vraiment en forme. On va voir comment ça se passe. C'est aussi samedi à 18h. Pas de Pro D2 ce week-end. C'est la pause.
C'est repos.
Mais mercredi, on a du handball du coup avec Philippe Gardant. La grosse affiche aussi, Toulouse-Montpellier. 20h30, ce sera donc à Toulouse. Une grosse semaine à Toulouse pour les sports collectifs. Un petit mot aussi de rugby à 13 parce qu'on a un gros club qui s'appelle le Toulouse Olympique et qui fonctionne très très bien et qui est là dans une espèce de phase qu'on appelle qualifiers. Alors c'est un espèce de play-off, un championnat à 8 entre les 4 premiers de première chip, c'est-à-dire la D2 et les 4 derniers de la Super League, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ils sont vraiment pas loin de leur objectif qui s'est fixé il y a plusieurs saisons, d'arriver en Super League, qui est donc le championnat référence en rugby à 13, en tout cas en Europe, qui se déroule essentiellement avec des clubs anglais. Mais là, pour le coup, l'affiche, elle est un petit peu originale, c'est Toronto-Toulouse.
Oui. C'est sympa.
Ils vont jouer à Toronto. Pour tous les deux se qualifier pour le championnat anglais. C'est assez rigolo. C'est la 5e journée. Ils sont pour l'instant 6e au goal average, mais en vrai 4e ex aequo. S'ils sont dans les 3 premiers, ils montent en Super League. S'ils sont 4e, ils jouent contre le 5e. S'ils sont 5e, ils jouent contre le 4e, un dernier barrage. Donc voilà, ils sont pas loin d'y arriver, Toulouse Olympique. Ça se passe samedi à 12h30. Alors, il y a toujours moyen de trouver un lien sur Internet pour regarder le match. Mais sinon, le prix d'avion, ça fait un petit peu cher peut-être pour aller voir le Théo. Mais bon, il y a peut-être des fans, on ne sait pas.
Bah, vous venez d'acheter une maison, donc la possibilité d'aller là-bas. Bah,
je la revends.
Pour aller voir le match avec Dia 13.
C'est pas un souci. Pour les sports un petit peu plus confidentiels, mais qui sont très à la mode, on a beaucoup de courses à pied ce week-end, et notamment le semi-marathon du TOAC. C'est toujours à Toulouse. Ça se passe dimanche. Il y a une course de 10 km, il y a une course de 21 km. Celle de 10 km, c'est 14€ l'inscription. Celle de 21 km, c'est 18€ l'inscription. On a jusqu'à vendredi soir minuit, donc il faut se dépêcher. Il y a tout ce qu'il faut sur le site internet du TOAC. Il n'y aura pas d'inscription le jour de la course, donc il faut se dépêcher pour les amateurs de course, et ça permettra de bien s'entraîner avant le marathon de Toulouse qui est mi-octobre. Un tout petit mot dernier, triathlon à la ramée aussi tout le week-end, et surtout l'Open de France de padel au Capitole.
Ça c'est bon, j'ajoute un mot aussi, Narbonne-Blagnac ce week-end, samedi.
En fédéral, le choc.
Au moins c'est complet, merci Lucas Serdic, et on se retrouve tout de suite pour le débat sur le football.
Portez-vous bien. Le débat.
Après 3 saisons plutôt moyennes, jouant même les barrages la saison dernière, le TFC pointe à la 3e place du championnat avec 3 victoires de suite. À 5 jours de recevoir l'AS Monaco au Stadium, les Violets sont pleins d'espoir et de confiance. Un jeu moins ennuyant, une équipe solide et combative. Le retour d'Alain Quinzanova est pour l'heure brillant. Messieurs, comme pour le rugby, une question répond par oui ou par non. Elle est très simple. Est-ce la fin des galères pour le Toulouse Football Club, Lucas ?
Ça part bien, ouais.
Maxime ?
Oui.
Marek ?
Allez.
Ouais.
Et Timothée ?
Ah non, moi j'y crois pas.
Eh ben pourquoi ? Bon, tout le monde dit oui, et voilà. Timothée qui dit non. Pourquoi Timothée ?
Ah, j'y crois pas parce que.
Incroyable.
C'est toujours la même chose chaque saison. Ils partent bien au début. Il y a Timothée. Une ou deux victoires. Le recrutement est à peu près positif, et ensuite ça se casse la figure.
Non,
j'y crois pas, c'est pas possible.
On le rappelle, cet été, le TFC a officiellement recruté. Gradel, Mbia, Dosevi, René, Bostock, Moubele ou encore Leia Iseka, c'est de l'expérience.
Manu Garcia.
Même Manu Garcia, Morera. Voilà, il y, y a du monde. C'est quand même un bon recrutement, j'ai envie de dire, pour un club comme Toulouse.
C'est un excellent recrutement, oui, non, mais vraiment, c'est, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont réussi à parfaitement capitaliser sur la vente de Diop et de Lafont. Ils ont même gardé un peu de sous. Là, ils viennent de se séparer de, d'Alexis Blin, qui de toute façon n'aurait pas
joué. Qui est parti à Amiens.
Qui est parti à Amiens, effectivement, après Joker médical. Oui, oui, tant mieux pour eux, et puis tant mieux pour lui aussi, parce qu'il n'aurait pas joué à Toulouse, malheureusement. Mais tout, tout ça pour dire que non, le TFC, je suis pas d'accord sur le fait que ça ressemble aux autres saisons. Ça non, après sur le fait que ça va marcher on ne sait pas, mais le début est vraiment intéressant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un début de saison intéressant, si 2016 est l'exception avec la folie de la remontada, ils avaient bien commencé,
mais en battant Paris,
on sentait qu'ils étaient en sur-régime, quoi. Je veux dire, là c'est pas le cas, c'est pas pour ça, pour moi c'est pas ça.
Marek, là je pense qu'il y a surtout un effet Gradel, parce que dès qu'il est arrivé en août, c'est lui qui a réconcilié les Indians, donc on le rappelle, les, oui, les supporters du TFC
avec les
avec
joueurs,
les joueurs. Et puis même dans le jeu, je trouve qu'il a plus d'impact que, qu'une star.
C'est Monsieur Plus. Hein.
Ouais, voilà, on annonçait Delors, grand attaquant de Toulouse. Je pense que Gradel, il est au-dessus et qu'il a vraiment sa patte sur cette équipe.
Ouais, c'est incroyable que personne d'autre, entre guillemets, n'ait essayé de nous le chipper, parce que faut être aveugle pour
tant
pas
mieux pour
voir
le TFC finalement.
Oui, bien sûr. Mais faut aller être aveugle pour pas voir que c'était lui l'année dernière qui avait déjà maintenu l'équipe une bonne partie de la saison.
Timothée Rouvière, vous êtes pas d'accord, mais que peut espérer finalement alors le TFC cette saison ? Le maintien très vite, après du bonus, ou ils peuvent espérer potentiellement titiller les premières places, les 5, 6, 7 ?
Alors, ils vont espérer surtout pas descendre en Ligue 2, je sais ça fait un petit peu pessimiste, mais moi je pense qu'au niveau du fond de jeu, il y a un problème. Moi je pense qu'il y a un problème au niveau du fond de jeu, les joueurs sont là, le recrutement est intéressant, là je suis d'accord avec vous, mais au niveau du fond de jeu, c'est une équipe qui manque d'ambition, c'est une équipe qui manque de tonus. On peut espérer alors...
C'est une équipe qui a besoin de se rassurer aussi, c'est pour ça.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, moi je les avais vus contre Nîmes, et je les trouve ils ont manqué un peu de réalisme. Mais après, au niveau du fond de jeu et de l'ambition, je les ai trouvés très ambitieux, très offensifs. Ils n'hésitaient pas à se découvrir.
Bien sûr.
Ils auraient pu y gagner 3-0, il n'y avait aucun souci. Moi, je pense que.
Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'ils sont, capables, effectivement, de continuer à essayer de pousser, de mettre le pied sur l'accélérateur, alors qu'effectivement, ils ont un score. Avant, ils jouaient tétanisés depuis une saison et demie. Ce qui faisait que même quand ils marquaient, ils ouvraient le score, ils étaient rejoints assez vite. Là, je sens plus de confiance.
On se souvient, par exemple, pour appuyer ce que vient de dire Lucas, le match contre Lille l'année dernière. En fin de saison où ils mènent 2-1 et ils se recroquevillent dans les 20 derniers mètres avant de perdre contre Lille qui d'ailleurs officialise quasiment le maintien lillois à ce moment-là et condamne quasiment le TFC au barrage. Timothée.
Moi, ce qui me pose problème avec le TFC, c'est que là, on a l'impression qu'ils sont à fond, ils sont au maximum, alors que toutes les équipes commencent leur préparation. Le PSG, ils sont pas du tout en, pas du tout en rodage pour l'instant.
On va peut-être pas comparer quand même le TFC.
On est d'accord.
PSG, mais sur des équipes, je pense qu'il faut comparer quand même le TFC sur des équipes comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, comme Lille. Par rapport à ces équipes-là, le TFC, je trouve, n'est pas en retard.
Non, on va quand même pas leur en vouloir d'être à fond dès le départ pendant que les autres sont encore en rodage. S'ils capitalisent pendant ce temps-là, tant mieux pour eux. Je veux dire, il y a des équipes qui ont fait des très bons débuts de saison. Après, effectivement, ils plongent un petit peu, mais au final, ils ont un maintien beaucoup plus serein. Et puis c'est quand même plus intéressant de travailler comme ça.
Ah oui, on est d'accord que c'est important de prendre des points en début de saison, mais au final, moi, je pense qu'ils vont arriver en bout de course très rapidement quand les autres équipes seront bien. Voilà.
Comment, Marek ?
Moi, il y a un détail que je tiens à souligner, c'est que je trouve surprenant que ce soit justement le retour de Casanova qui insuffle un peu cette nouvelle dynamique. Moi, je me rappelle du TFC quand il était encore là.
C'était pauvre. Hein.
11-10 au classement et c'était des 0-0 contre Nice. Enfin, c'était une époque monstrueuse.
C'est parce qu'ils ne se sont pas quittés en mauvais termes. C'était la fin d'un cycle.
Quoi,
c'était un crève-cœur pour eux, à mon avis, de se séparer. Et en fait, l'ambiance au club est bonne avec lui parce qu'il fait moins de vagues. Tout simplement que d'autres, il s'entend bien avec certains qui ont les manettes sur des choses. Voilà,
parce que les couleurs,
il appréciait pas du tout ne pas avoir la main sur tout. Et donc là, il y a quand même quelque chose de plus serein dans le club, dans son fonctionnement. Et moi, là où je vois que ça marche bien, c'est sur le recrutement, tout simplement. Quand ils travaillent ensemble, ils sont capables de faire un bon recrutement. Alors qu'avant, ils se tiraient dans les pattes. Hein. C'est bien pour ça qu'on a eu des recrutements tardifs et des
le recrutement a très bien fonctionné sur le papier. On est d'accord. Il y a aussi le centre de formation qui marche très bien, ça aide aussi un effectif professionnel, ça.
Oui, évidemment, évidemment.
Ça, c'est un travail de France. Hein,
oui, oui, bien sûr. C'est un travail de, mais ça, c'est de dizaines et de dizaines d'années presque, j'ai envie de dire. Oui, oui, évidemment. Et ils pourront toujours s'appuyer sur les jeunes, comme on l'a vu avec Todibo. Tout à fait. Ça peut que faire du bien et surtout, ça peut rapporter des sous.
Oui. Timothée, est-ce que le TFC a toujours un manque d'ambition dans ce championnat de France de Ligue 1, Conforama?
Moi, je pense qu'il y a un manque d'ambition. Le TFC s'est enlisé dans leur recherche. Ça, surtout, de ne surtout pas descendre. Je pense que si le club veut viser un peu plus haut avec les joueurs qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même élever les ambitions. Il faut y aller.
Il y a un vrai problème de discours d'ambition parce qu'effectivement, quand Alain Casanova est revenu et que Olivier Sadran l'a présenté, il a dit notre objectif, c'est de revenir à notre place, à notre statut un peu plus conforme, celui de justement la grande époque Casa, où si on était entre 6 et 8, c'était notre place, c'était très bien et ça nous allait. C'était déjà bien parce qu'on était le 13e budget. Voilà. Effectivement, ça fait un petit peu peur. Ça tranche avec ce que pouvait dire Pascal Duprat quand il était là, en tout cas.
Est-ce pas le minimum entre la 6e et la 8e place pour la 4e ville de France?
La 4e ville, oui, mais le 13e club.
Le 13e budget, mais.
On va pas se mentir, Toulouse, c'est pas vraiment une ville de foot, quoi. Donc,
le rugby, au niveau de l'engouement,
quand il faut aller gagner des matchs importants, avoir une grosse base de fans, ça vous aide, quoi. Quand vous avez le public qui vous pousse.
Tu parlais du serpent qui se mord la queue, c'est toujours pareil aussi. Avec des résultats, on a des supporters. Avec les supporters, on a des résultats. Mais tant qu'on n'a pas de résultats, on n'a pas de supporters.
Si le championnat, c'est compliqué d'atteindre l'Europe, il y a un parcours beaucoup plus simple, mais que le TFC n'y arrive jamais. Une seule Coupe de France, c'était en 1957. Et c'est très rare d'avoir un parcours du TFC en Coupe de France ou de la Ligue.
Pour moi, c'est ça la grosse anomalie de ce club. Franchement, je me l'explique pas. J'ai aucune réponse à vous donner.
Ça, c'est vraiment dans les cordes du TEF, quoi, de gagner.
C'est un problème de discours, moi, je pense. C'est un manque d'ambition, un problème de discours.
Mais quand il y avait Pascal Duprat, c'était pareil.
Messieurs, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès lundi prochain, demain, dès 7h. Retrouvez Rémi Souloumiac accompagné d'Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix à 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Un lundi et bonne semaine avec Radio Présence. Au revoir.